Bienvenue à l'écoute d'Europe 1, il est 18h.
Les personnes qui se sont fabriquées leurs propres masques, y compris en suivant les normes AFNOR sur Internet, devraient basculer vers des masques plutôt industriels, dont les normes de filtration correspondent au moins à 90%.
Les nouvelles recommandations des autorités sanitaires face à la propagation des nouveaux variants venus de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud ou du Brésil, plus contagieux, ils font donc davantage s'en protéger.
Le Haut Conseil de la Santé publique recommande donc d'éviter les masques en tissu cousu main.
L'idée d'un passeport vaccinal pour voyager au sein de l'Union européenne fait son chemin, mais les obstacles le reste nombreux, nous dira Isabelle Horry à Bruxelles.
Au sommaire également ce soir, les professionnels du spectacle qui réclament des aides supplémentaires afin de pouvoir financer les répétitions en attendant une éventuelle reprise.
Un ancien Premier ministre devant la Cour de justice de la République, ouverture du procès d'Edouard Balladur, soupçonné d'avoir financé illégalement sa campagne de 2015.
Et demain à cette heure-ci, Donald Trump sera redevenu un simple citoyen américain. Dernières heures donc à la Maison Blanche, on sera évidemment à Washington.
Et c'était évidemment la campagne de 95 pour Edouard Balladur. Et puis le Tour de France 2021. Sans Thibaut Pinot, il préfère le Giro. Décidément, il y a peu de chances pour qu'on ait un Français sur le podium cette année. La Bourse de Paris a terminé en léger repli de 0,33% à 5598 points.
Et puis la météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le vent soufflera fort demain.
Oui, des vents tempétueux hein, même sur une certaine partie de la France. En tout cas, le vent va souffler sur toutes les régions. Personne ne sera épargné. Les températures, elles seront plus douces demain. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et face aux variants plus contagieux que le virus initial, les autorités sanitaires remettent donc en question aujourd'hui la fiabilité des masques en tissu.
Victor Delande, le Haut Conseil de Santé publique, nous recommande donc de bannir les masques artisanaux faits à la maison, ceux que nous avons cousus avec application et avec beaucoup d'amour d'une certaine manière lors du premier confinement.
Oui, tout à fait. Le Haut Conseil de la Santé publique veut notamment éviter les masques passoires, vous savez, ces protections un peu artisanales en tissu qui ne filtrent pas suffisamment bien les particules ou qui baillent et qui n'encadrent pas assez le visage. En déplacement au siège de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé ses consignes.
Les personnes qui se sont fabriquées leurs propres masques, y compris en suivant les normes AFNOR sur Internet, devraient basculer vers des masques plutôt industriels, dont les normes de filtration correspondent au moins à 90%. C'est la plupart des masques que nous avons d'ailleurs distribué nous-mêmes sur le territoire national. Donc ça ne change pas fondamentalement la donne, seulement faire attention à ce que le masque grand public qu'on porte corresponde bien à ces normes industrielles.
Donc si on prend les normes AFNOR, les masques en tissu de catégorie 1 filtrent 90% des particules, tandis que ceux de catégorie 2 n'en bloquent que 70%. Alors comment essayer d'y voir plus clair dans les nombreux masques qui sont proposés dans le commerce? Préférez soit un masque chirurgical, ça c'est bon, soit un masque de catégorie 1. Pour vous repérer, c'est assez simple, c'est écrit sur l'emballage, c'est ce qu'on appelle les masques de grand public de niveau 1. En revanche, si vous trouvez un masque plutôt joli dans une boutique de vêtements ou dans un autre commerce, mais qu'il n'y a rien écrit dessus, ne l'achetez pas, il n'est pas suffisamment protecteur.
Merci Victor Delande pour ces précisions importantes.
Le gouvernement avait promis de jouer la transparence, et bien il communique ses chiffres aujourd'hui. 139 cas d'effets indésirables graves ou inattendus ont été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. Et 5 personnes sont mortes après avoir reçu le vaccin, mais elles avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidités. Pas de confirmation formelle sur le lien de cause à effet. On verra à 19h que ce sont des chiffres à relativiser, hein, qui n'ont rien a priori d'inquiétant.
Et sachez par ailleurs que le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que dans les 15 départements sous couvre-feu à 18h depuis maintenant le 2 janvier, un effet commence à se faire sentir avec une baisse des nombres de cas. Et alors que nous rêvons tous d'un retour à la vie d'avant, l'Europe planche donc sur la possibilité d'instaurer ce fameux passeport vaccinal.
Qui permettrait aux personnes vaccinées de pouvoir voyager en Europe, idée poussée notamment par la Grèce, hein, qui a un besoin presque vital de retrouver des touristes le plus vite possible. Isabelle Horry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Isabelle, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. En France, par exemple, les enfants ont l'obligation d'être vaccinés pour être admis à la crèche ou à l'école. Il faut aussi un certificat de vaccination contre la fièvre jaune quand on voyage vers certains pays. Sauf qu'au niveau de l'Europe, eh bien cette idée, Isabelle, elle ne fait pas l'unanimité.
Alors, l'idée de créer un certificat européen de vaccination, le même pour tout le monde aux quatre coins de l'Europe, ça ne pose pas de problème, hein, même s'il y a un gros travail technique à réaliser. Non, la difficulté, en fait, elle porte sur l'usage qui sera fait ensuite de ce certificat, sa transformation en passeport vaccinal, si vous voulez. Le risque, c'est de créer deux classes de citoyens européens, les vaccinés et les autres. Les vaccinés ayant plus de droits que les non-vaccinés, notamment celui de voyager en Europe. Or, l'Union européenne, et plus précisément la zone Schengen, c'est un espace de libre circulation des personnes, sans contrôle aux frontières intérieures. exiger un passeport vaccinal pour aller au hasard en Grèce, c'est quasiment comme exiger un passeport vaccinal entre Paris et la Bretagne. Hier, la Commission européenne a donc suggéré une piste pour éviter de créer des discriminations. C'est soit exiger un certificat de vaccination, soit exiger un test négatif. En fait, le débat ne fait que commencer et les chefs d'État et de gouvernement vont en discuter demain lors de leur sommet virtuel.
Et vous suivrez ça pour nous. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles. En France, le secteur de la culture de nouveau mobilisé aujourd'hui.
Oui, alors que les théâtres et les salles de spectacle n'ont aucune perspective pour l'instant, les intermittents en appellent donc une nouvelle fois au gouvernement.
Et ils réclament 115 millions d'euros pour pouvoir répéter dans de bonnes conditions en attendant la réouverture, comme l'explique Ghislain Gauthier, il est secrétaire général de la CGT Spectacle.
Pour nous, l'important aujourd'hui, c'est que les personnes retravaillent. Il y a des projets autour de répétitions qui sont mis en place. La ministre elle-même a appelé à ce qu'il y ait des répétitions sur les territoires, mais pour l'instant, il y a eu 0 € consacré à cela. On a l'impression que l'État est plus à l'écoute des demandes des entreprises que celles et ceux qui font la culture aujourd'hui, les salariés et les artistes-auteurs. Donc on attend des réponses rapides du gouvernement.
Le secrétaire général de la CGT Spectacle au micro européen d'Angèle Châtelier.
Oui, dans quelques secondes avec notre invité à 18h20, on s'intéressera aussi au tourisme et aux fameuses remontées mécaniques. Ça n'est pas gagné, ils attendent une réponse demain. On sera avec le maire de la Plagne Tarentaise, président aussi de l'Association nationale des maires des stations de montagne, Jean-Luc Bock. Il lui reste un peu moins de 24 heures à la Maison-Blanche, mais sans attendre, le musée Grévin à Paris a décidé dès aujourd'hui de mettre au rebut la statue de cire d'un certain Donald Trump.
Et hop, plus d'actualité, voilà. S'il le savait, qu'il mettrait sans doute à mal son ego. En tout cas, on est à la veille de l'intronisation de son successeur Joe Biden et on vous retrouve en direct de Washington, Xavier Yvon, où Trump passe donc ses dernières Bonjour. Heures en tant que président de la Maison-Blanche. Bonsoir Xavier.
Oui, demain à cette heure-ci, Donald Trump sera redevenu un simple citoyen. Il aura déménagé dans sa maison de Floride. Alors le programme du président sortant pour cette toute dernière journée complète est aussi flou que ces dernières semaines parce que selon son agenda officiel, je cite, le président va travailler de tôt le matin à tard le soir. Il aura de nombreux appels et de nombreuses réunions. Voilà, on ne saura pas plus. Pour sa dernière décision, Donald Trump devrait accorder une série de grâces présidentielles aujourd'hui. Ça pourrait concerner jusqu'à une centaine de personnes dans son entourage et ses partisans. On attend la liste des noms. A priori, il n'ira pas jusqu'à se gracier lui-même préventivement, ni sa famille. Ça fait une semaine qu'on n'a ni vu ni entendu Donald Trump, c'est extrêmement rare. Il est, on le sait, privé de Twitter, reclus à la Maison-Blanche. Il devrait réapparaître aujourd'hui. Il a enregistré une vidéo d'adieu qui doit être diffusée dans les heures qui viennent. Donald Trump va-t-il prendre la plume aujourd'hui pour écrire une lettre à son successeur comme le veut la tradition ? La presse spécule. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira demain matin sans accueillir son successeur Joe Biden à la Maison-Blanche. Et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis 152 ans.
Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct donc de Washington.
152 ans, ça ne nous rajeunit pas ça. Et vous restez avec nous évidemment, car demain, édition spéciale à propos des États-Unis, on sera à partir de 18h en direct dans Europe Soir avec nos invités, nos spécialistes et nos envoyés spéciaux pour suivre cette passation de pouvoir très attendue avec Joe Biden.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous dans quelques secondes. Un ancien Premier ministre de 91 ans devant la Cour de justice de la République, Édouard Balladur, pour ne pas le citer.
Et Thibaut Pinot qui passe son tour.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec Isabelle Millet, 18h09. Y a-t-il eu financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur à la présidentielle de 95? Plus de 25 ans après, l'ancien Premier ministre fait donc face à la justice dans ce volet de la tentaculaire affaire dite Karachi.
Oui, jugé depuis aujourd'hui devant la Cour de justice de la République aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard. Chloé Triomphe, vous étiez là lorsque les deux hommes se sont présentés comme convenu cet après-midi, donc devant cette Cour de justice de la République.
Oui, Édouard Balladur, élégant en costume cravate, s'est présenté comme il l'avait annoncé devant la cour et malgré son âge, 91 ans, a assisté sans fatigue apparente aux arguments de procédure plaidés par son avocat. Il a même prévu de prononcer une déclaration liminaire qu'il relit et corrige ponctuellement avec un stylo tiré de sa poche intérieure, déclaration qu'il fera finalement demain. À sa gauche, séparé par l'allée centrale, François Léotard, lui aussi est bien présent. Il y avait une incertitude sur sa venue et aucun avocat ne pouvait le confirmer car il n'en a pas, c'est assez rare pour le souligner, mais l'ex-ministre de la Défense, Édouard Balladur, qui a lui-même versé au dossier des éléments pour sa défense, de longs écrits au style littéraire, l'assume parfaitement. Il s'agit de mon honneur, je le défendrai moi-même, précise encore François Léotard d'un ton décidé. François Léotard qui, à chaque suspension, préfère la solitude de la lecture aux discussions de prétoire. Il a amené Antigone de Brecht et Œdipe sur la route d'Henri Beauchaud. Il est vrai que le procès doit durer plusieurs semaines.
Et vous allez suivre ce procès Bibliothèque Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Autre procès, celui en appel de Georges Tron, qui a été suspendu dès son ouverture. L'ancien secrétaire d'État est en effet cas contact d'une personne positive au Covid. En première instance, il avait été acquitté des accusations de viol et d'agression sexuelle sur deux anciennes collaboratrices. Les aveux de Jean-Marc Reiser. Pour la première fois, il reconnaît avoir tué Sophie Le Tan. Cette étudiante strasbourgeoise avait disparu en septembre 2018 alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un appartement. Son corps démembré avait été retrouvé dans la forêt. Jusqu'ici, Jean-Marc Reiser avait toujours nié.
Les sports à présent, et on ne verra pas Thibaut Pinot grimper les cols pyrénéens cet été. Le cycliste français annonce qu'il ne participera pas au prochain Tour de France.
Et décidément, plus ça va, moins il y a de chances pour qu'il y ait un Français sur le podium cette année, Axel May.
Oui, cette fois, six mois avant l'échéance, on sait qu'on ne sera pas déçu par Thibaut Pinot. Après ses deux abandons successifs, dont celui particulièrement cruel en 2019, le désormais trentenaire ira en Italie sur le Giro, où le parcours lui convient mieux. Il s'est exprimé par visioconférence cet après-midi.
Quand on dit encore que je suis la pression médiatique, c'est quelque chose qui est complètement faux, mais depuis 2012 que je suis sur le Tour, on parle beaucoup à ma place, et ça sert à rien de se défendre parce que c'est peine perdue.
Alors Pinot présent sur le Giro, quels autres Français peuvent prétendre à un podium cet été sur le Tour? Romain Bardet? Non, car l'Auvergnat a quitté son équipe de toujours, à G2R la mondiale, pour rejoindre l'ex-formation allemande Sunweb, où il ne sera plus leader unique. Julien Alaphilippe, le nouveau champion du monde, a répété la semaine dernière qu'il ne viserait pas le classement général du Tour. Guillaume Martin, le grimpeur normand, est toujours à la recherche d'une première victoire d'étape et le podium semble encore hors de portée. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas encore cette année que Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 85, aura un successeur. Et dans six mois, un Français dans le top 5 sur les Champs-Élysées serait déjà un bon résultat.
Merci Axel May. Et puis le foot, bonne nouvelle pour les clubs amateurs engagés en Coupe de France. Ils sont autorisés à reprendre dès cette semaine. Les premiers matchs auront lieu à la fin du mois. Mais inquiétude pour les joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner dans des conditions normales, bien sûr, ces derniers mois.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal.